franceinter.fr.
Il y a environ 90 000 ans, notre ancêtre Homo sapiens serait allé bien plus loin que ce qu'on pensait lors de ses premières sorties d'Afrique. C'est ce qu'indique en tout cas une publication d'une équipe internationale dans la revue Nature, Écologie et Évolution. Les chercheurs de l'Institut Max Planck à Leipzig ont réussi à dater un os de doigt fossilisé appartenant bien à notre ancêtre Homo sapiens. Il a été retrouvé dans le désert de Nefoud, au nord de la péninsule arabique. De quoi affiner donc un peu plus, Catherine de Coppet, le scénario des premiers déplacements de nos ancêtres.
Oui Mathieu, c'est ce qu'on va faire tout de suite grâce à notre invité en ligne depuis Leipzig, Jean-Jacques Hublin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléo-anthropologue et vous dirigez le département évolution humaine de cet institut qui a mené cette recherche. Alors la découverte de ce fossile de phalange confirme ce qu'on pensait, à savoir qu'Homo sapiens, il y a 100 000 ans, s'est aventuré hors d'Afrique, donc jusqu'à l'intérieur de la péninsule arabique. Alors pourquoi on s'en doutait ?
D'abord, juste une petite correction. Mon équipe est intervenue dans l'étude du fossile lui-même. La datation a été faite par un collègue australien. En fait, on sait déjà depuis un moment que des hommes modernes sont sortis d'Afrique il y a un peu plus de 100 000 ans. Et puis récemment, avec une découverte en Israël, on a retardé cette date à 180 000. Mais pour l'instant, ces découvertes aux portes de l'Afrique se limitaient aux régions méditerranéennes. Et cette fois-ci, on a un fossile qui est à 85 000, 90 000, dans la péninsule arabique, dans le désert. Et d'une certaine façon, c'est une confirmation parce qu'on avait déjà trouvé dans toute la péninsule arabique depuis maintenant une dizaine d'années des industries de pierre taillée qui ressemblent beaucoup à celles que l'on a de l'autre côté de la mer Rouge, en Égypte et au Soudan.
Alors pourquoi Homo sapiens s'est déplacé dans cette région qu'on appelle le désert du Nefoud ? C'est une histoire de changement climatique, comme d'habitude, j'ai envie de dire.
Mais en fait, l'Afrique et l'Arabie d'autrefois n'ont pas toujours été comme l'Afrique et l'Arabie d'aujourd'hui. Et en particulier, de façon irrégulière, on a de temps en temps, au cours du quaternaire, des épisodes que l'on appelle des épisodes de Sahara vert. Alors, il ne faut rien exagérer, le Sahara n'est pas devenu la Normandie, hein, mais des savanes, des lacs, des fleuves se sont développés dans ce vaste désert qui couvre l'Afrique du Nord, mais qui se continue dans la péninsule arabique. En fait, c'est le même domaine désertique. Et donc, vers cette époque-là, on a un épisode de verdissement du Sahara. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les hommes qui vivent en Afrique, qui sont adaptés à des milieux de savane, eh bien, simplement suivent l'expansion de ce domaine éco-géographique, de ce milieu, j'allais dire de façon passive, sortent d'Afrique.
Alors, à cette époque, il y a eu une fluctuation du coup de la frontière géographique entre Néandertal, qui était donc septentrional au nord, et Homo sapiens, qui était plutôt du côté tropical. On peut le voir comme ça, une espèce d'alternance dans cette zone du Proche-Orient ?
Voilà, c'est ça. On a des Néandertaliens qui sont adaptés plutôt aux moyennes latitudes, on va dire fraîches et parfois même froides. Et puis notre espèce qui est une espèce tropicale. Et la frontière entre ces deux domaines fluctue. Et donc ces Africains qui sont adaptés à des milieux de savane se retrouvent en Arabie. On ne leur avait pas dit que ça n'était pas l'Afrique. Hein. Donc ils sont sortis d'Afrique sans le savoir.
Ben oui, il n'y avait pas de pancarte encore à l'époque, Jean-Jacques Hublin. Comment on a pu dater aussi précisément cette phalange ? Alors quelles sont les méthodes utilisées pour cela ?
Alors, il y a dans cet article, il y a eu au moins deux méthodes qui ont été utilisées. Une méthode qui est une méthode de datation directe du fossile. En gros, on mesure la vitesse de désintégration de l'uranium qui est contenu en très petite quantité dans ce fossile. Je dois dire que cette partie-là est assez discutable parce que l'uranium, c'est un élément qui est très soluble, qui se promène et donc c'est une date, je pense, qui a été retenue par les éditeurs du journal, surtout parce qu'elle est confirmée par une autre date, qui est la date des sédiments qui ont livré ce fossile. Et cette date, elle est établie avec une méthode qu'on appelle la méthode de luminescence optiquement stimulée, et qui permet de dater du sable, en fait, des grains de quartz ou d'autres minéraux qui ont été exposés à la lumière autrefois. et qui ont été ensuite enfouis. Et on peut mesurer le temps qui s'est écoulé depuis cette dernière exposition au soleil.
On a un géologue d'ailleurs parmi nous, Jean-Jacques Hublin, qui est juste à ma droite, François Michel.
Oui, j'entendais l'introduction. Oui. Je vais me précipiter pour acheter le livre des curiosités
Merci.
De France, parce que je suis quand même un ancien géologue.
Voilà. Et donc, François Michel, voilà, on a une sorte de calendrier dans les roches, au fond. C'est très pratique pour dater les choses.
Ah, totalement. Aussi bien dans les sédiments que dans des roches magmatiques, les moyens de datation sont totalement différents. On vient de nous en expliquer deux, là, qui sont particulièrement intéressants, c'est vrai, et qui sont ce qu'on appelle de la datation qualifiable d'absolu. Mais l'absolu a toujours une certaine relativité.
Donc ça veut dire qu'on se trompe très peu finalement. Il y a quand même
échelle de 85 000 ans, on se trompe assez peu.
Oui, donc c'est pas mal.
Jean-Jacques Hublin, est-ce que cette extension géographique, donc des premières sorties d'Afrique pour Homo sapiens, préfigure sa grande expansion qui commence beaucoup plus tard, il y a 60 000 ans? Est-ce que c'est le début finalement?
Eh bien, peut-être pas vraiment, parce que en fait, longtemps, ces fluctuations du domaine de notre espèce sont liées à ces changements climatiques. On soupçonne même que lors d'une de ces sorties, les Homo sapiens se sont installés dans le sud de l'Asie, dans les zones tropicales. Et c'est à partir de cette base de départ qu'ils auraient colonisé l'Australie vers 60 000. Et puis ensuite, il y a une autre sortie d'Afrique, une autre expansion qui est, si je peux dire, la bonne. C'est celle qui va amener nos ancêtres, non pas seulement dans les zones tropicales où ils sont le mieux adaptés, mais dans des territoires complètement nouveaux, et en particulier ceux où vivent les hommes de Néandertal. Et là, ce qui est en cause, ça n'est pas juste une fluctuation climatique, puisque ces hommes, ces Africains qui ont évolué dans des milieux chauds, eh bien, vont non seulement s'adapter au milieu tempéré et frais, mais même aller dans des endroits où les Néandertaliens ne sont jamais allés, c'est-à-dire dans les zones arctiques et puis vers les Amériques. Ouais. Et là, ce qui est en cause, c'est pas les fluctuations de l'environnement, ce sont vraiment des changements internes à ces populations, à leur organisation sociale, à leur technologie, à leur démographie aussi, probablement.
Ouais. Jean-Jacques Hublin, est-ce qu'on peut imaginer que certains Homo sapiens aient fait le choix de revenir en Afrique, parce que finalement, ils y étaient très bien et ils n'avaient pas envie d'aller ailleurs?
Ah mais non seulement on peut l'imaginer, mais on en a la preuve. Mmh. Hein. Et on en a la preuve pourquoi ? Eh bien parce que quand on regarde l'ADN de groupes humains modernes qui ont quelques milliers d'années, ils sont pas très très anciens, mais ils ont quand même quelques milliers d'années, qui vivaient dans la corne de l'Afrique, dans l'est de l'Afrique, eh bien on trouve dans leur ADN un tout petit peu d'ADN d'hommes de Néandertal. Et comme il n'y a jamais eu d'homme de Néandertal en Afrique, la seule explication qu'on ait, c'est que c'est un retour vers l'Afrique, si je peux dire, de certaines populations modernes.
Jean-Jacques Hublin, est-ce que ce qu'il reste à trouver maintenant, ce sont des traces d'Homo sapiens, donc un peu plus à l'est, vers l'Inde et la Thaïlande, en fait, entre l'Australie et la péninsule arabique ? Pour faire large.
C'est ça. Alors, on a quand même un jalon ou deux qui sont tout à fait intéressants en Asie du Sud-Est. Au Laos, un gisement qui s'appelle Tampaline a livré des restes d'hommes modernes à 60 000 à peu près. Mais c'est vrai qu'il y a un vide chronologique et un vide géographique énorme entre l'Asie du Sud-Est et puis, disons, Israël et puis l'Arabie. Et là, dans le fond, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, disons, entre 120 000 et 60 000. Et on soupçonne qu'il y a probablement à un moment donné des hommes proches de nous qui vivent déjà dans ces régions. Et tout reste à découvrir, puisqu'on n'a aucun fossile pratiquement de cette époque-là dans ces régions.
Voilà, en tout cas, on ne se lasse pas d'avoir des précisions sur les origines d'Homo sapiens. Jean-Jacques Hublin, merci beaucoup en tout cas à vous. Vous étiez en direct de Leipzig, où vous êtes paléoanthropologue à l'Institut Max Planck. À bientôt sur France Inter. Et puis Catherine Ducopet, à bientôt également, puisqu'on retrouvera Axel Villard lundi. Merci à vous. À bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les courants océaniques de l'Atlantique s'affaiblissent et ça n'annonce rien de bon. Selon deux études parues récemment dans la revue Nature, c'est le changement climatique qui en serait en partie la cause. L'AMOC, acronyme scientifique de l'ensemble de ces courants atlantiques, a atteint son plus faible niveau depuis 1600 ans sous l'effet de la fonte des banquises et des glaciers. C'est la présence d'eau douce due à cette fonte qui ralentit la force des courants océaniques. Ces derniers sont pourtant des régulateurs essentiels des eaux marines. Ils transportent des nutriments, de l'oxygène et des larves de coraux qui contribuent à absorber le CO2, le déclin de ces courants pourrait avoir pour conséquence, entre autres, bouleversement des tempêtes hivernales fréquentes en Europe. Et si la longueur des jours avait un effet sur les plantes, des biologistes suédois ont remarqué qu'il existait ce qu'on appelle la photopériodicité chez les arbres. Pendant les jours courts, les cellules de certains arbres ne sont plus alimentées. Les canaux de communication entre ces cellules responsables de la croissance se bloquent. Conclusion, les plantes semblent se fier à la durée du jour pour sortir de la dormance liée justement au changement de saison et déclencher leurs hormones de croissance, et ce, quelle que soit la météo. Et puis lorsque taxer les sodas contribue à la santé publique, les scientifiques de l'université de Drexel aux États-Unis ont noté la baisse de 40% de la consommation journalière de soda chez les habitants de Philadelphie, et ce depuis que ces boissons coûtent plus cher. 58% du panel de citoyens étudiés sont même devenus des buveurs d'eau réguliers. Il a été très largement prouvé que les calories des boissons sucrées pouvaient être associées à un risque élevé de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiaques. Il reste maintenant à espérer que l'effet de la taxe perdure dans le temps.